Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovine, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Iso Tsikar et Arjuna Andrade. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Pascal Baudin.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Notre dernière émission de l'année est consacrée à la discipline économique et à l'influence qu'elle exerce dans la société. Rien n'est impossible dans une science aussi inexacte que l'économie. Voilà ce que déclarait avec humour Paul Samuelson, prix Nobel d'économie en 1970. Il faut dire que le débat fait rage entre les partisans de l'efficience des marchés, qui voient l'économie comme une science dure, et les défenseurs d'une plus grande intervention de l'État, pour qui la discipline est avant tout une science sociale et morale. Une bataille théorique, idéologique, qui est aussi une bataille d'influence, à l'heure où les experts de l'économie se multiplient sur les plateaux télé. Alors l'économie est-elle une science d'autorité? C'est la question qu'on va se poser dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons nous pencher sur les différentes écoles de pensée économique en compagnie de Bernard Guérien, maître de conférences à l'université Paris 1, et d'Agnès Labrousse, maîtresse de conférences en économie à l'université de Picardie. À 14h40, on rencontrera Isabelle Méjean qui vient de remporter le prix de la meilleure jeune économiste 2020. Bonjour Agnès Labrousse et Bernard Guérien.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors l'économie est-elle une science? C'est ce que l'on va tenter de déterminer au cours de cette émission. Et d'abord ce qu'il faut souligner, c'est que l'on parle communément de science économique. C'est déjà une forme d'adoubement, Bernard Guérien.
Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut parler de science ou des masses scientifiques? A priori, oui, parce que ce que cherchent les économistes, c'est des régularités, comme le font dans les autres sciences. On essaye de voir s'il existe des régularités. À partir de là, on essaie d'élaborer des petites théories. Et puis, en économie, on utilise beaucoup les statistiques. N'est-ce pas ? C'est surtout l'expérimentation, c'est beaucoup plus difficile. Et on dispose beaucoup de statistiques. On essaie de voir s'il y a des tendances, des corrélations, etc. Donc cette démarche-là est une démarche qu'on peut qualifier de scientifique.
Et alors l'enjeu, c'est peut-être de voir si c'est une science dure ou une science molle. L'économie, en tout cas, cherche parfois à revendiquer ce statut de science dure. Quel est l'enjeu, Agnès Labrousse?
Alors oui, effectivement, hein, il y a eu dans une grande partie de l'économie, pas la totalité de l'économie, il y a eu la volonté dès le 19e, hein, grosso modo la deuxième moitié du 19e, même s'il y avait déjà des éléments auparavant, de faire de l'économie une science, d'abord au même titre que la mécanique. Donc une des premières sources d'inspiration de ce qu'on appelle l'économie néoclassique, ça a été la mécanique pure du début du 19e, celle d'avant la seconde loi de la thermodynamique. Donc ça a été très très structurant pour l'économie néoclassique. Et puis après il y a eu d'autres sources d'inspiration aussi en provenance d'autres sciences dures. On peut penser notamment à partir des années 50 à un auteur comme Debreu. Debreu va importer les mathématiques topologiques, qui sont des mathématiques de haut vol, hein, inspirées du groupe français de Bourbaki. Et il va essayer de faire une théorie pure des marchés. Et puis ensuite, il va y avoir encore une autre inspiration en provenance cette fois-ci plutôt de la médecine, même si on pourra en discuter, c'est plus compliqué que ça en pratique, qui va être celle des essais cliniques, les essais cliniques randomisés, donc l'idée d'une économie expérimentale.
Alors on va revenir sur ces différents types d'inspiration. Mais alors d'abord, comment est-ce qu'on cherche à faire accéder l'économie à ce statut de science dure? Cela passe en grande partie par un plus grand recours aux mathématiques et notamment à la modélisation arithmétique, Bernard Guérien?
Non, je vous ai parlé de statistiques, c'est-à-dire on traite des données, etc. Après, il y a l'idée d'avoir un système d'ensemble, n'est-ce pas? On part, par exemple, d'hypothèses de base. Alors, comme a dit ma camarade, il y a la théorie globale de l'équilibre général qui est basée sur l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire on va mettre l'accent sur l'individu et on va construire un système à partir des comportements individuels. Mais là, ça devient quelque chose qui est absolument déconnecté avec ce qu'on connaît et qui n'est pas testable évidemment empiriquement, même pas statistiquement, n'est-ce pas? C'est une construction, ça serait une espèce de théorie d'une économie qui serait idéale, n'est-ce pas? Un modèle qui serait à atteindre, mais qui est complètement, qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel nous vivons.
Mais on cherche en tout cas des outils qui se rapprochent, comme le disait Agnès Laproust, le plus possible de ceux qui sont employés dans les sphères scientifiques, des outils porteurs de légitimité. Agnès Laproust.
Bon, je ne sais pas, mais c'est... Oui, c'est... Alors, le problème, c'est que souvent, on le fait de manière scientiste, c'est-à-dire c'est une imitation servile d'une image un petit peu fantasmée des sciences de la nature. Donc, c'est là qu'est le problème. Hein. Par exemple, c'est ce que disait Bernard tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que on sait très bien, Walras savait très bien que sa théorie de l'équilibre général ne correspondait pas à la réalité, mais très rapidement, ça va devenir quelque chose de normatif. Donc, on a un modèle idéal en lequel on montre que les marchés sont efficients. La réalité ne correspond pas à ce modèle de concurrence parfaite, d'homo economicus, etc. Et donc, il faut que la réalité se rapproche au maximum du modèle. Donc, c'est la réalité qui a tort. Et ça, je pense que dans d'autres sciences, on ne considère pas que c'est la réalité qui a tort. On va adapter la théorie pour la rapprocher beaucoup plus de la réalité.
Alors, tout à l'heure, Agnès Laproust citait Gérard Debreu, qui a obtenu le prix Nobel d'économie en 1982, grâce à ses travaux sur les mathématiques topologiques. Est-ce qu'on peut dire que cette période, Bernard Guérien, c'est le règne des données, en quelque sorte?
Non, justement pas. Parce que Debreu n'a jamais regardé une donnée de sa vie. Ça, c'est pas ce que c'est. C'est parce que c'était un mathématicien, comme vous dites. Il faut bien voir qu'il y a, une espèce de truc bizarre en économie, c'est que il y a quelque part deux populations. Il y a la population des économistes comme Debreu, venus des mathématiques et qui font de la théorie très abstraite, tout ça complètement donc déconnecté.
Et puis c'est ensuite, des mathématiques très abstraites.
Voilà. Et je serais plus critique qu'elle. Je pense que même son modèle, c'est même pas atteignable. C'est pas le modèle de Walras. Non. En fait, c'est le paradoxe de l'économie. C'est que le modèle des marchés, en réalité, si on le regarde structure mathématique, c'est un modèle centralisé et en fait de planification. D'ailleurs, l'idée derrière, c'est qu'il y a quelqu'un qui organise tout. Il y a un centre, un commissaire-priseur. Donc, ça, c'est le paradoxe. On peut pas même dire, on va aller vers ça, parce que ça voudrait dire qu'on ferait de la planification. Et ça, c'est toujours l'ambiguïté des économistes. C'est qu'un économiste, il va jamais vous dire, un physicien va dire les choses sont comme ça. Un économiste dira les choses sont comme ça, mais il faut faire ça. Il faut toujours, il a ce côté-là. Bon, et donc après, alors ils ont deux casquettes souvent, pas Debreu, mais des gens comme Arrow, Stiglitz, vous en avez entendu parler, ils ont la casquette purement théoricien qui sert d'un point de vue académique, ça c'est très important, c'est que l'académie recrute là-dedans. Et après ils ont un côté appliqué, eux. Mais alors, on peut complètement, Krugman, si vous en avez parlé, aussi on peut complètement séparer l'un de l'autre. Alors les côtés appliqués, statistiques, la cuisine, ils peuvent dire des choses très intéressantes, mais il faut qu'ils aient cette espèce d'étiquette qu'ils maîtrisent bien, la théorie, etc., qui n'a aucun rapport avec ce qu'ils font en pratique. Je pense que c'est très difficile à comprendre pour des gens qui ne sont pas économistes. C'est ça la caractéristique de ce monde-là.
Alors il y a une... Agnès Laproust, vous voulez réagir?
Oui, juste une petite incise à propos de Krugman. Il a écrit sur son blog du New York Times un petit article intitulé « Macroeconomic Madness », la folie macroéconomique. Et il explique que dans les années 80, pour être publié dans les bonnes revues et pour faire carrière, il était obligé, avec ses collègues, d'introduire toute une série d'éléments complètement fantaisistes et irréalistes sur les anticipations rationnelles, etc., pour pouvoir être publié. Hein. Donc ceci explique aussi ce que vient de raconter Bernard Guérien. L'économie telle qu'elle se fait au quotidien, elle se fait dans pour des revues, des institutions d'évaluation, ça s'inscrit dans des carrières, donc il y a toute une composante en fait sociologique de la discipline.
On va reparler de ces instances de légitimité, mais il y a une troisième phase qui va s'ouvrir, qui est celle de l'expérimentation. Je vous propose d'écouter justement l'économiste Pierre Cahuc.
Aujourd'hui, l'économie a la même démarche que d'autres disciplines scientifiques, la biologie, la médecine, qui consiste à finalement faire des expériences. Donc en médecine, si on veut savoir si un médicament est efficace, on donne le médicament à un groupe de patients et on donne un placebo à un autre groupe, à un groupe témoin, et regarde comment évolue l'état de santé de ces deux groupes. En économie, on fait la même chose maintenant, grâce à l'explosion des données. C'est assez récent, ça fait une vingtaine, trentaine d'années que ceci se développe. Et Par exemple, vous regardez quel est l'effet du salaire minimum sur l'emploi. Aux États-Unis, lorsque le salaire minimum augmente, il augmente dans certains États et pas dans d'autres. Donc on regarde comment évolue l'emploi de chaque côté de la frontière, du côté où le salaire minimum a augmenté et de l'autre côté où le salaire minimum n'a pas augmenté, en regardant l'évolution de l'emploi au cours du temps dans ces deux États, le long de la frontière, on est capable de déceler une relation de cause à effet entre l'augmentation du salaire minimum et l'emploi. Et on arrive à des surprises.
Voilà, on l'entend pour Pierre Cahuc, l'économie est devenue une science expérimentale au même titre que la médecine ou la biologie. Alors qu'est-ce que vous inspire ces propos, Agnès Labrousse?
Une petite remarque.
Eh bien, Bernard Guérin.
Oui, mais après, tu lui laisses. Oui. Non, mais parce que ce qu'il vient de dire, c'est juste ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est de la cuisine statistique. On va prendre des statistiques dans les États, on va regarder s'il y a des différences. C'est de la cuisine, c'est pas de la grande théorie. C'est chercher une espèce de régularité, vous voyez? C'est ça. Ça, c'est le côté cuisine. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est à peu près sérieux, disons. Bon, alors je laisse Agnès
sur le fond.
Oui, oui, oui. Alors, d'abord, Pierre Cahuc, dans cet extrait, il mélange deux choses. D'un côté, les essais cliniques randomisés, contrôlés.
Alors,
et
qu'est-ce que vous entendez par randomisé?
Alors, c'est des essais ou des expérimentations dans lesquelles on va avoir deux groupes statistiquement comparables. Le seul élément qui va les différencier, c'est que dans un groupe, on va administrer un traitement, on va intervenir d'une certaine manière, et dans l'autre groupe, en fait, qui est donc comparable, on ne va pas administrer de traitement.
C'est en cela qu'ils sont inspirés des traitements médicaux.
Voilà, même si en fait, il y avait des éléments antérieurs en sciences sociales et notamment en psychologie, en sciences de l'éducation, etc., dès les années 1920. Hein, mais évidemment, c'est plus légitime de se revendiquer de la médecine que de sciences sociales, comme les sciences de l'éducation ou la psychologie. Alors là, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il amalgame deux choses qui sont déjà différentes. C'est-à-dire que quand il parle du salaire minimum qui va être appliqué dans tel état des États-Unis et pas dans tel autre, là, on est en présence de quasi-expérimentation. Parce que dans ces états, il peut se passer plein d'autres choses qui expliquent. Il y a une première confusion, il y a un petit manque de rigueur là-dessus. Expérimentation et quasi-expérimentation ne sont pas la même chose. Et ensuite, il parle de preuves de causalité. Alors là, j'aimerais introduire une différence qui est faite sur les essais cliniques en médecine, justement. C'est-à-dire que une expérimentation, ça va permettre de tester l'efficacité ou la non-nocivité d'une molécule, d'un principe actif. Mais on ne sait pas quels sont les mécanismes causaux sous-jacents. Je vous donne un exemple. Hein. On sait que il y a des essais cliniques qui montrent que l'acupuncture réduit les vomissements post-opératoires. Mais on ne sait pas par quel mécanisme l'acupuncture agit. Donc, les mécanismes causaux, c'est les preuves de causalité. Donc là, il y a déjà une confusion qui est problématique. Et en plus, ce sont des questions d'interprétation, parce qu'une grande partie de ces mécanismes causaux sont de fait des boîtes noires pour les expérimentateurs. Et si on ne fait pas à côté, par exemple, des études qualitatives pour voir ce qui se passe, enquêter sur les raisons des acteurs, etc., par exemple, il va être très difficile de savoir quels sont les mécanismes causaux sous-jacents, sauf si c'est une causalité très très simple. Alors, l'économie expérimentale est très intéressante. Hein. Il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Le problème, c'est que l'économie expérimentale telle qu'elle est pratiquée de manière dominante aujourd'hui ne propose qu'une remise en question très très partielle de l'homo economicus. C'est-à-dire que celle qui est publiée dans les bonnes revues va expliquer qu'il y a des biais au comportement rationnel. Donc, c'est comme pour la concurrence imparfaite. Il y a des biais par rapport à la concurrence parfaite. Donc, on conserve l'homo economicus comme modèle de référence auquel on va ajouter une multitude de biais. Néanmoins, il y a des travaux d'économie expérimentale qu'on peut qualifier d'hétérodoxes qui ne vont pas être publiés dans les revues les mieux cotées et qui, eux, proposent des modèles complètement alternatifs de rationalité.
Oui, ce que vous dites, c'est que cette promesse de rigueur des expérimentations, elle constitue quand même un renouveau pour les sciences sociales et on peut notamment citer les travaux d'Esther Duflo pour analyser l'impact du microcrédit sur une population.
Alors oui, alors on peut prendre donc là aussi, hein, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un retour de l'empirie hein, en économie après les fameuses théories de l'équilibre général dont il était question auparavant. Néanmoins, là aussi, les résultats des expérimentations, il demande un cadre interprétatif et il y a plusieurs interprétations possibles et les interprétations sont complexes, se coublient un peu des auteurs comme Esther Duflo. Alors on peut prendre un exemple, une expérimentation au Maroc, l'expérimentation à la Mala, qui est une expérimentation de microcrédit avec un article qui a été notamment co-signé par Esther Duflo. Et en fait, donc ça c'était une expérimentation qui était, alors je ne sais pas si j'ai une petite minute pour essayer de donner un exemple concret. C'était une expérimentation qui était financée par l'Agence française de développement. Et ils expérimentaient aussi les expérimentations en même temps, c'est-à-dire qu'ils ont mis aussi une équipe de socio-économistes pour voir ce qui se passait à côté de ça sur le terrain. Et donc, l'idée de cette expérimentation de microcrédit, Alamana est un organisme de microcrédit qui était implanté en zone urbaine au Maroc, et ils ont voulu étendre leur activité aux zones rurales. Alors, les résultats de l'expérimentation ont été très décevants parce que, en fait, il y a eu un très faible recours au microcrédit, toute une série aussi de problèmes statistiques, d'attrition, etc. Mais l'interprétation était complexe. Par exemple, un petit détail, au début, dans le projet, ils avaient oublié de tenir compte du calendrier agraire qui est essentiel dans les zones rurales pour les remboursements. Donc, est-ce que c'est le microcrédit qui marche pas ou est-ce que c'est parce que c'est un calendrier de remboursement qui est mal conçu? Et enfin, par ailleurs, pour compléter un petit peu, pour montrer la complexité des choses et de ce qu'est une science au quotidien, il y a des collègues qui ont fait une réplication des résultats de cette expérimentation et qui aboutissent à des résultats complètement différents, qui s'aperçoivent que les données ont été très très mal traitées. Et donc ça va être publié cette année.
Alors, on voit toute la complexité qu'il y a à donner ce titre de science à l'économie. Alors, il y a une définition de la science que je vous emprunte et que vous empruntez vous-même, Bernard Guérien, à André Lalande dans le vocabulaire technique et critique de la philosophie. Je vous lis cette définition. La science est donc définie comme un ensemble de connaissances et de recherches ayant un degré suffisant d'unité, de généralité et susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes qui ne résultent ni de conventions arbitraires, ni des goûts ou des intérêts individuels qui leur sont communs, mais des relations objectif qu'on découvre graduellement et que l'on confirme par des méthodes de vérification définies. Alors est-ce que, selon cette définition et cette façon de considérer l'économie, est-ce que ce n'est pas difficile justement de lui apposer ce nom de science, Bernard Guérien ?
Oui, non, évidemment, on est très très loin de ça, n'est-ce pas ?
Les conclusions concordantes et notamment les méthodes de vérification, c'est ça qui pose question.
Comme je l'ai dit depuis le début, on cherche d'abord des régularités. Alors, par exemple, ces expériences-là, microcrédit, il y a l'histoire des moustiquaires et le paludisme en Afrique. Alors, ce sont toujours des problèmes locaux, si on peut dire, spécifiques. Il faut faire très attention des conditions qui... Et en fait, ce sont des régularités, peut-être si ça marche, disons que ça marche très bien, locales. Et après, si on veut extrapoler à un autre endroit, ça marche plus.
C'est pour ça que vous refusez de parler de loi en économie. On parle pourtant de la loi de l'offre et la demande,
non,
on parle de la loi de l'échange. Mais justement, expliquez-nous. Pourquoi est-ce que ce terme de loi ne vous paraît pas légitime?
Non, parce que l'offre et la demande, si vous voulez, c'est une règle. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si, ce que tout le monde connaît, hein, n'est-ce pas, que si un bien est peu disponible, alors, et si l'offre d'un bien est faible, si la demande est forte, le prix va augmenter, etc. Vous voyez, les si, et c'est une règle informelle de combien ça a augmenté, n'est-ce pas? On ne sait pas. Personne, même aucun économiste va dire que ça, c'est une loi, n'est-ce pas? C'est le mot loi utilisé dans un sens très, très particulier, n'est-ce pas? Bon.
Et donc, en même temps, on continue au quotidien à entendre parler de loi d'offre et de la demande.
Non, mais c'est le café du commerce.
Je voudrais entendre la brousse sur cette question.
C'est d'autant plus le café du commerce que, par exemple, il existe des catégories de biens comme les biens de première nécessité ou les biens Veblen, plutôt des biens de luxe, pour lesquels cette loi n'est absolument pas vérifiée. Et puis, ça, en fait, ça dépend aussi d'habitude de consommation, etc. Donc, en fait, il y a toute une série de conditions qui ne sont pas vérifiées en tout temps et en tout lieu. Donc, c'est vraiment très, très problématique de qualifier ça de loi. Mais il y a quand même des économistes qui croient dur comme fer.
Non, le problème, c'est qu'on ne peut pas la formuler dans le sens, il n'y a pas une loi. C'est une formule, c'est une relation précise, c'est ça une loi, C'est pas une espèce de petit machin de dire « ouais, bah ça varie dans tel truc, il se passe... » Non, c'est pas ça du tout. Une loi, au sens, c'est quelque chose, une relation précise. Il n'y a pas de relation précise, il y a un truc un peu flou, n'est-ce pas, voilà.
Alors justement, je vous propose d'écouter Benjamin Coriat, professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris 13 et membre du collectif des économistes atterrés.
Il faut bien voir deux choses. Utiliser... des données empiriques, les traiter de différentes manières, à travers des modèles, à travers la recherche de corrélations, à travers éventuellement des expérimentations, fait entièrement partie de la méthode scientifique. Et bien entendu, nous y référons simplement. Ce que nous critiquons, c'est pas ça. Ce que nous critiquons, c'est, alors, la science économique doit faire sa révolution copernicienne. Oui. C'est-à-dire, elle doit abandonner un certain nombre d'hypothèses, en tout cas le mainstream, doit abandonner un certain nombre d'hypothèses constitutives. La science économique est aujourd'hui une science axiomatique, c'est pas du tout une science expérimentale. Donc elle doit abandonner un certain nombre d'hypothèses sur le comportement des consommateurs, sur le caractère autorégulateur des marchés, etc., etc.
La science économique est une science qui s'appuie sur des axiomes, des vérités qui n'ont pas été démontrées, et ce sont ces axiomes que Benjamin Coriat appelle aujourd'hui à abandonner, Agnès Labrousse.
Oui, c'est une sage réflexion, hein. Alors, c'est pas toute la science économique, mais c'est une grande partie de la science économique qui, on part d'axiomes, hein, comme l'homo economicus, ça va par exemple supposer qu'il y a une indépendance des préférences par rapport au contexte, que ces préférences sont stables, elles sont données d'emblée, etc. Or, justement, la psychologie et l'économie expérimentale montrent que ça n'est pas vérifié. Donc des axiomes de comportement, mais des axiomes qui portent aussi sur le contexte de l'activité économique, les conditions de la concurrence, qu'elles soient parfaites ou imparfaites. Effectivement, ces axiomes, en fait, ils sont profondément irréalistes pour la plupart d'entre eux.
Peut-être que ce qu'il faut souligner, c'est que les théoriciens de l'économie sont nécessairement influencés par leur vécu, leurs expériences, leurs relations, et cette subjectivité doit peut-être être reconnue comme telle, Agnès Labrousse.
Et oui, il faudrait être beaucoup plus prudent et beaucoup plus modeste. L'économiste a besoin d'être humble, c'est ce que soulignait André Orléans. En fait, on est tous, sans toujours en avoir conscience, hein, on est porteurs de ce que les épistémologues appellent des valeurs d'arrière-plan. Donc, on a, quand on examine un objet, on a toujours un point de vue particulier, une posture donnée qui dépend en fait de ses expériences, du contexte dans lequel on vit. Je vais vous donner peut-être un exemple qui n'a rien à voir avec l'économie, qui est celui de la primatologie des années 50-60. Cette primatologie était dominée essentiellement par des chercheurs masculins qui faisaient très bien leur travail, mais en fait, leur croyance d'arrière-plan était que c'était les mâles dominants qui structuraient les sociétés primates. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient en tête le modèle occidental, familial occidental dominant de l'époque, ce qu'on appelle le male breadwinner, l'homme pourvoyeur de ressources. Et donc,
on a identifié que c'était des biais, mais bien plus tard.
Mais bien plus tard, et on l'a authentifié. On s'en est aperçu notamment parce que des femmes sont arrivées dans le champ de la primatologie. Elles étaient porteuses d'expériences différentes, d'autres valeurs. Et donc, elles se sont aperçues que, par exemple, il y avait des mâles périphériques qui faisaient ami-ami avec les femelles, ce qui, sur le plan reproductif, avait de bons résultats, ce que n'avait pas observé ces autres collègues qui faisaient bien leur travail, hein, encore une fois, mais qui n'avaient pas les mêmes valeurs d'arrière-plan.
Ce qu'on constate en tout cas, c'est que la crise de 2008 a justement beaucoup contribué au discrédit des économistes. Attends une seconde, je vous donne la parole dans un instant, Bernard Carrière, mais d'abord, je voudrais qu'on entende Patrick Artus, qui a été reçu le 28 août dernier à la grande table d'Olivia Gesbert sur France Culture.
Je me suis complètement trompé, donc je l'ai écrit plusieurs fois depuis. Mais à nouveau, on était dans des chocs extrêmement faibles. Hein. Donc le scénario le plus vraisemblable quand même, c'était pas un scénario de crise mondiale violente. On avait quelques centaines de milliards de dollars de pertes pour les banques américaines. Ça n'aurait jamais dû déclencher une crise de cette taille. Donc, et une fois que ces pertes étaient absorbées par les banques, on n'aurait pas dû avoir cette crise. Donc, ce qu'il faut se demander à nouveau, le scénario le plus vraisemblable était vraiment le scénario où la crise s'arrêtait.
La crise de 2008, elle est emblématique selon vous, Bernard Guérien, de l'aveuglement que peut entraîner justement la croyance dans certains modèles économiques ?
Non, je pense pas que le modèle économique jouait un grand rôle. dans la crise.
Vous ne parleriez pas d'un aveuglement ?
Pardon ?
Vous ne parleriez pas d'un aveuglement ?
Non, attendez. Les gens, les gouvernements, les gens, l'économie, ceux qui sont au pouvoir, les administrations, leur modèle des économistes, ils les ont là, mais eux, ils utilisent leur flair, leur pratique, ils n'en ont rien à faire. Justement, c'est les gouvernants, ils utilisent les économistes un petit peu pour se justifier, mais a posteriori à peu près, etc.
N'est-ce pas ? Agnès Labrousse.
Alors je trouve cette idée de Bernard un petit peu excessive, parce que je pense qu'il faut se garder de deux écueils quand on s'intéresse à l'influence des économistes sur les décisionnaires. Le premier écueil, c'est de penser que les politiques économiques sont la transcription directe de ce que racontent les économistes. Ça effectivement, c'est erroné. Néanmoins, il y a des influences qui restent importantes et je pense que l'économie dominante a quand même très largement contribué à un aveuglement généralisé. Et pour ce qui est des prévisions, alors on peut pas dire à quelle heure et quel jour une crise va avoir lieu. Ça, c'est totalement impossible. En revanche, on peut dessiner les mécanismes qui font que il y aura probablement un jour une crise. Et ce qu'on fait, toute une série d'économistes hétérodoxes, hein, comme Plion, comme Steve Keen, comme André Orléon, ou encore Frédéric Lordon. Donc, le problème, c'est que quand il y a un pseudo-consensus au sein des économistes et qu'on n'écoute pas assez les voix dissonantes.
Alors vous citez Dominique Plion, justement, donc président du conseil scientifique d'Attac France. Pour lui, la crise de 2008 a au moins eu le mérite d'entraîner une remise en question de certaines théories économiques.
Je pense qu'on a progressé grâce à la crise. Cette crise a ceci de bon qu'elle a obligé les uns et les autres à clarifier leurs analyses, leurs pensées. Je pense que le débat a permis de montrer que la doctrine dominante est en crise. Comment est-ce qu'elle s'exprime-t-elle ? C'est ce que les économistes appellent la théorie de l'efficience des marchés financiers. Les marchés financiers seraient capables de s'autoréguler, de converger vers l'équilibre, et que finalement, il n'y aurait pas besoin de les réguler, que les interventions des États ou des banques centrales seraient sans intérêt. La crise a démontré le contraire. Et donc, ça a permis de clarifier le fait que la finance est fondamentalement instable, que la finance doit être régulée, ce qui est l'idée ou sont les idées que nous défendons depuis longtemps. Sauf que malheureusement, je constate en tant qu'universitaire que dans les universités, dans les cénacles où l'on parle de théorie financière, la théorie de l'efficience continue d'être dominante. Et d'ailleurs, une illustration incroyable nous a été fournie par l'attribution des derniers prix Nobel d'économie à deux économistes qui sont américains, qui sont Eugene Fama et Robert Shiller. Monsieur Eugene Fama est le père de la théorie de l'efficience. Et donc, il est quand même incroyable de voir qu'on a couronné ce monsieur, alors même que beaucoup disent aujourd'hui que cette théorie est dépassée.
La théorie de l'efficience des marchés a été remise en question, mais le chemin reste long selon Dominique Plion. Vous partagez cet avis, Agnès Labrousse ?
Ah oui, tout à fait. Hein. J'irais même jusqu'à dire que ce qui s'est produit, au lieu de dire les économistes qui avaient montré que ce capitalisme financiarisé, très peu régulé, était porteur d'instabilité fondamentale, au lieu de dire c'est eux qui avaient raison et donc on doit aussi enseigner leur théorie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une reconfiguration interne aux théories mainstream. Donc il y a eu un discrédit d'une certaine macroéconomie. Mmh. Et il y a eu la montée en puissance, justement, de ce dont on parlait auparavant, l'économie expérimentale, par exemple, et d'autres courants économiques. Mais ces courants-là d'économie expérimentale, ils apportent très très peu à la compréhension de la crise qui s'est déclenchée en 2007-2008.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Diplôme d'économie, petites économies, études d'économie. Institut d'économie, salon de l'économie, crise de l'économie. Économique, développement économique, science économique, statistique. économique, situation économique, données économiques.
Économie de Thierry Stremler. Nous sommes toujours avec Agnès Labrousse et Bernard Guérien et nous parlons des débats autour de la discipline économique comme science. Un débat qui oppose les économistes dits orthodoxes et les hétérodoxes. Écoutons justement le point de vue de Bruno Tinel, maître de conférence à l'Université Paris 1 et membre du collectif des économistes atterrés sur cette ligne de fracture dans la science économique.
Il y a une dimension qui relève de la religion, et parce que finalement, l'emploi de ce terme, ça renvoie au fond à une forme de sectarisme qui s'exprime dans la discipline, puisque finalement, ce qui est orthodoxe, c'est ce qui s'impose comme le seul jugement vrai. Donc si au fond, on n'adhère pas au seul jugement vrai, c'est qu'on est hétérodoxe. Mais donc c'est bien finalement, quand au bout d'un moment, on se heurte à une forme de sectarisme parce qu'on n'adhère pas à la théorie qu'on finit par nommer orthodoxe, qu'au fond, on est obligé de constater ce clivage entre orthodoxe et hétérodoxie. Donc finalement, ce qui définit l'orthodoxie, c'est qu'elle refuse elle-même de se définir comme orthodoxie. Et forcément, justement, il n'y a qu'un hétérodoxe qui est capable d'identifier l'orthodoxie, puisque l'orthodoxie, par définition, elle se veut hégémonique et copain avec tous. Elle est capable de parler de tout.
Voilà un extrait d'un entretien hors série du site Arrêt sur image de Daniel Schneiderman. Alors que vous inspire ces propos de Bruno Tinel, la distinction entre orthodoxe et hétérodoxe et le choix de ces adjectifs vous paraissent pertinents, Agnès Labrousse?
Oui, ils sont pertinents. Alors, c'est pas Bruno Tinel qui les a inventés, c'est le grand économiste Keynes qui était frappé par le caractère dogmatique d'une grande partie de l'économie de son temps. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est presque encore plus le cas. Et donc, j'adhère très, 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 très largement à ce que vient de dire Bruno Tinel.
Les tensions entre les uns et les autres apparaissent notamment au sujet de la présence dans les médias ou la question des postes à l'université, les hétérodoxes dénonçant un manque de pluralisme dans la discipline économique, et c'est aussi le sous-titre de l'ouvrage auquel vous avez participé, Agnès Labrousse.
Oui. Alors, ce dont on est parti d'un constat, c'est que les courants eux-mêmes très pluriels qui constituent l'hétérodoxie les économistes qui en font partie n'obtiennent plus, quasiment plus de postes de professeurs à l'université.
5% des professeurs d'université recrutés entre 2005 et 2011 étaient hétérodoxes.
Voilà. Et donc ça, c'est un changement profond qui commence grosso modo dans les années 90, même s'il y avait déjà des éléments auparavant, et qui conduit à l'extinction programmée, en fait, des courants de pensée hétérodoxes, et qui fait qu'on va plus entendre que les sons de cloche, qui sont les sons de cloche des courants dominants.
Et les économistes hétérodoxes avaient pourtant demandé en 2015 la création d'une nouvelle section au sein du Conseil national des universités, intitulée Économie et société. Et l'objectif justement, c'était de permettre la nomination des professeurs en rupture avec la pensée économique dominante. Mais il y a eu une pression très importante des économistes orthodoxes et notamment de Jean Tirole qui fait qu'elle n'a jamais vu le jour, ce qui nourrit peut-être ce sentiment de relégation des orthodoxes. Des hétérodoxes, pardon.
Oui, tout à fait. Cette hétérodoxie a été presque sauvée. Ça s'est joué à un fil. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation totalement dominée dans laquelle il nous est très, très difficile d'enseigner toute une série d'approches, de théories. Et donc, ça met en danger le pluralisme. Parce que quand il n'y a plus que certains courants, ça devient un dogme qui n'est plus remis en question. Et donc, ça participe de l'aveuglement dont il était question précédemment.
Alors, comment justement permettre un véritable pluralisme dans la science économique? La lauréate du prix Nobel d'économie, Elena Ostrom, appelée à croiser les méthodes, seule façon pour elle de faire avancer la recherche.
Oui, et je la rejoins totalement. Alors elle a vraiment pratiqué l'interdisciplinarité à un degré presque inégalé, non seulement au sein des sciences sociales, mais entre méthodes qualitatives, quantitatives, etc., et avec les sciences de la nature. Donc c'est vraiment un modèle, et elle était justement très très humble et très prudente, et elle expliquait qu'il n'existe pas de Graal méthodologique, que chaque modèle a à ses limites, dont il faut être conscient, et que c'est justement par la combinaison des modèles et des méthodes qu'on peut essayer de s'approcher du réel.
Et alors, contrairement peut-être à Bernard Guérien, vous penseriez, Agnès Labrousse, que le dissensus entre les théories ou les stratégies de recherche est une bonne chose ?
Alors, un certain dissensus lié à un pluralisme des points de vue, parce qu'on, voilà, il y a différentes, ce qu'on appelle des communautés épistémiques, qui vont être porteuses de différentes méthodes, de différentes approches, de différentes valeurs. Et l'idée, c'est de s'échanger des objections. Et donc l'objectivité, c'est pas un processus individuel, c'est un processus social. C'est quand une communauté, par exemple quand un Dominique Plion va dire à un économiste partisan de l'efficience des marchés, mais regarde là, telle hypothèse, elle n'est pas du tout pertinente et il serait bien plus sage de la remplacer par telle autre, par exemple. C'est en ça qu'on peut aboutir à un certain degré d'objectivité.
Croiser les points de vue de chercheurs qui sont porteurs de différentes valeurs, comme vous nous le disiez, Bernard Guérien, c'est peut-être un moyen de contrôler les différents biais pour aller vers plus d'objectivité ?
Il faut clarifier. Par exemple, là, on a parlé tout le temps d'efficience de marché, et c'est une théorie qui n'existe pas. C'est un mot, et les gens reproduisent, on ne sait pas si on veut discuter de ça. Non, d'ailleurs, quand le prix Nobel a été donné à Fama et Schiller, ils n'ont absolument pas prononcer le mot marché efficient, alors que tout le monde dans tous les journaux dit c'est pour les marchés. Non, parce qu'ils savent que c'est une théorie qui n'existe pas. Alors ça, c'est le genre de truc qu'on est en train de discuter, des choses inutiles. Et je pense qu'il y a tout un pan de l'économie dominante, là, qui est strictement à rejeter, qui n'a aucun, celle qui fait les mathématiques, la topologie genre de Breu, je pense qu'elle n'a aucun intérêt. On ne peut pas discuter avec eux, c'est un autre monde, c'est fini.
Mais on continue donc, aussi quand même à beaucoup les entendre, Agnès Labrousse.
Oui, ben justement, ils ont un certain pouvoir, parce qu'ils jouent, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le rôle de filtre. Il faut un peu passer par... Si on veut être un bon, il faut être passé par là. Alors on a parlé de Ostrom, là, mais Ostrom, c'est la seule... qu'on a donné. Et pourquoi on a donné le prix Nobel Ostrom ? C'était après la crise de 2008. Et là, on était très embêtés. Alors, on a donné le prix Nobel d'abord à Krugman, parce que Krugman est rien. Et après, on dit, on va chercher, on veut donner à femme, on peut pas. On a donné, en plus, c'est une femme. C'est formidable. Mais depuis, aucun autre.
Pas de remise en question pour
alors,
autant
tout le monde dit, de la théorie dominante. Ostrom, formidable, voilà.
Oui, c'était une conjoncture très particulière, post-crise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient d'une faculté de sciences politiques. Elle a une double formation, mais son camp de base est en sciences politiques. Alors, elle pensait que là, justement, la séparation entre économie et politique est une erreur et qu'il faut joindre les deux disciplines. Et il y a eu une avalanche de critiques injurieuses à son égard sur les blogs d'économie. Donc, elle n'a pas été acceptée. On a dit, c'est pas une économiste. Je pense qu'elle apporte énormément à l'économie.
Et depuis, il n'y a pas eu rien d'autre.
Il y a eu un petit séisme dans le monde de la discipline économique. Ça a été la parution de l'ouvrage de Pierre Cahuc et d'André Zilberberg, le négationnisme économique, paru il y a 2 ans. Un ouvrage qui dénonçait justement l'obscurantisme dont se rendraient coupables, selon eux, ceux qui refusent de reconnaître le caractère scientifique de ces expérimentations. Agnès Labrousse, peut-être que ce dissensus, débat, a permis de faire ressurgir et de montrer véritablement quelles étaient les forces en présence.
Là, on est dans c'est un bel exemple de scientisme. Alors, en plus, lui pratique quasiment pas l'économie expérimentale. Ça correspond d'ailleurs à grosso modo 5-10% de l'économie. Donc c'est quand même très très problématique. Et puis c'est une rhétorique d'élimination de tout ce qui ne fait pas partie du mainstream. C'est quand même d'une violence considérable et qui n'est pas justifiée. C'est juste des arguments d'autorité. Et c'est ça le problème en fait de courants dominants. Ils n'ont pas à apprendre de leurs erreurs. C'est ça. C'est une des définitions du pouvoir. On n'a pas à apprendre de nos erreurs, notamment celle concernant la crise.
Des arguments d'autorité face auxquels un certain nombre d'économistes s'insurgent.
Je pense que Pierre Cahuc est un économiste du travail. Et comme par hasard, l'économie du travail, c'est là où il y a les plus grosses bagarres, n'est-ce pas ? C'est pas par hasard. Bon, vous imaginez bien pourquoi. Et donc, en fait, effectivement, lui a été attaqué, l'économie du travail, c'est l'endroit où ça chauffe en économie, c'est l'économie du travail. Et bon, et lui, il réagit contre ça, parce qu'il est très attaqué,
etc. Il ne supporte pas la contradiction, il faut le dire.
Bon, c'est ça, parce qu'il a été aussi très critiqué, etc. Donc, il réagit, on sent que c'est très viscéral. Ça se ramène à ce que j'ai dit, l'idéologie. Il y a une idéologie au départ, il y a des idéologies différentes, une conception différente, ce que peut être l'harmonie, le travail, etc. Et voilà, et là, c'est un choc d'idéologie, vraiment.
Merci beaucoup Bernard Guérien et Agnès Labrousse de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je renvoie les auditeurs à l'ouvrage auquel vous avez participé, Agnès Labrousse, « À quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose ?» publié aux éditions des Liens qui libèrent. Cet entretien peut être réécouté sur le site de France Culture, franceculture.fr ou en podcast. Et dans un instant, nous allons rencontrer la meilleure jeune économiste 2020. Le prix décerné par Le Monde et le Cercle des économistes a été remporté cette année par Isabelle Méjean. Bonjour Isabelle Méjean.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes professeure à l'École Polytechnique et vous avez travaillé sur les effets de la mondialisation des échanges. On va en parler, mais d'abord, un mot sur ce prix que vous venez de remporter. Comment devient-on, après Esther Duflo, Thomas Piketty ou encore Stéphanie Stancheva, la meilleure jeune économiste de France, selon le Cercle des économistes et le journal Le Monde ?
C'est un prix donc qui est décerné effectivement par un jury d'économistes qui sont à la fois académiques ou institutionnels. Et donc pour le remporter, il faut être jeune au sens du cercle des économistes, donc moins de 40 ans, français, et puis donc avoir une carrière académique en France ou à l'étranger. Et il y a une composante supplémentaire, donc la carrière académique qui va être évaluée par des publications scientifiques. Et puis il s'intéresse aussi à la participation au débat public. Donc on est supposé être un économiste qui s'intéresse au débat public.
Quand vous avez décidé de devenir économiste, Isabelle Méjean, c'était aussi pour influencer effectivement les politiques publiques, et cela grâce à une méthode dont on va parler dans un instant, qui s'appuie sur les données.
J'ai pas la prétention d'influencer beaucoup les politiques économiques. Je pense que j'ai commencé surtout pour essayer de les comprendre, parce que je trouve toujours que l'économie, c'est un sujet difficile, qui pose des questions qui ont l'air importantes, mais souvent qu'on a du mal à comprendre. Donc moi, j'avais envie d'apprendre des choses, et l'économie, c'était un sujet qui me semblait assez fascinant et assez complexe. Donc j'ai commencé plutôt pour comprendre des choses que pour influencer les débats publics. Évidemment, si je le fais aujourd'hui, je suis contente. Mais mon travail consiste encore beaucoup à essayer de comprendre des choses que je comprends souvent pas très bien.
Et vous n'êtes pas la seule. Alors, comme l'économiste Edmond Malinvaux avant vous, qui a d'ailleurs donné son nom à un prix que vous avez également remporté, vous travaillez donc sur des données. Qu'est-ce qu'elles ont apporté, ces données, à la recherche en économie, selon vous ? Et qu'est-ce que ça signifie, travailler sur des données ?
Moi, je travaille beaucoup sur des données individuelles, c'est-à-dire je travaille sur de l'information statistique qui est collectée souvent à des fins de fiscalité, mais qui est collectée au niveau des entreprises. Donc les individus dans mes échantillons, les individus que j'étudie, c'est des entreprises françaises souvent. Grâce à cette donnée, en fait, ce qui est un peu nouveau dans ce que je fais, dans ce que de nombreuses personnes font, c'est que finalement, on essaye de comprendre des phénomènes assez macroéconomiques, le commerce, la volatilité du PIB, la croissance, etc., mais en prenant vraiment le prisme microéconomique, c'est-à-dire en essayant de comprendre ce qui se passe sous les agrégats macro qui sont produits par l'INSEE ou par d'autres producteurs de données, qui vont partir des données brutes et produire des agrégats macroéconomiques. Moi ou d'autres chercheurs, au contraire, on va garder finalement l'information statistique brute au niveau le plus fin, essayer de comprendre comment les différences entre entreprises vont nous permettre de mieux comprendre des phénomènes agrégés, donc qui sont les entreprises qui gagnent au commerce international, qui sont celles qui perdent, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va être compétitive par rapport à ses concurrents, comment est-ce que les réallocations de parts de marché entre des entreprises vont expliquer la compétitivité française, ce genre de choses. Donc encore une fois, en allant très fin dans les données pour essayer de répondre à des questions plutôt agrégées.
Et c'est comme cela que vous avez travaillé sur les failles de la mondialisation, des failles que la crise du coronavirus a mises en lumière. Quelles sont-elles, Isabelle Méjean ?
Elles sont nombreuses, hein, et on travaille. Enfin, moi, j'ai commencé à faire du commerce international vraiment au début des années 2000, et je pense que c'est aussi un moment où il y a eu une reconnaissance importante par le champ en économie de finalement du fait que la mondialisation apporte beaucoup de bénéfices, mais aussi des coûts, des failles, comme vous les appelez. Et donc, grâce à l'utilisation des données individuelles, on a pu mieux comprendre, en particulier les phénomènes de réallocation, c'est-à-dire encore une fois, qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Il suffit pas de dire la mondialisation, c'est globalement positif. C'est important aussi de savoir qui sont les individus ou les entreprises qui vont bénéficier effectivement, et est-ce qu'il y a des entreprises ou des individus qui vont perdre à la globalisation.
Et justement, donc, ce que vous montrez, Isabelle Méjean, c'est que finalement, les gagnants sont un petit nombre d'entreprises et un petit nombre de pays.
Voilà, ça c'est une caractéristique très forte des données de commerce international, c'est que il y a très peu d'entreprises qui participent effectivement au commerce international. Quand on entend parler de la balance commerciale, on a l'impression que c'est quelque chose qui représente l'économie française. En fait, quand on regarde les données, on se rend compte que ça représente le comportement de très peu d'entreprises. Donc on va être de l'ordre de 20% des entreprises qui vont effectivement avoir une activité internationale, et parmi ces 20% d'entreprises, la plupart vont avoir une activité très limitée, et quelques très grosses entreprises vont vraiment faire le gros du commerce international. Donc ça, c'est une caractéristique qui est très importante pour mieux comprendre justement le partage des gains de la globalisation entre différents types d'entreprises.
Par exemple, vous montrez qu'une même entreprise peut fabriquer 90% de la production d'une molécule. C'est ce qui a entraîné un certain nombre d'embouteillages dans ce qu'on appelle les chaînes de valeur ou les chaînes de production lors de la crise du coronavirus.
Alors, il y a une caractéristique qui est finalement inhérente à la globalisation, c'est effectivement que l'activité va se concentrer autour de très grosses entreprises, donc ils vont se retrouver à être des producteurs très dominants sur certains types de marchés. La crise du coronavirus, ça reste quand même une crise où on a eu une très forte demande pour des produits très particuliers, et donc avant tout, les problèmes d'approvisionnement sur ces biens-là, sur les masques, sur les respirateurs, ils sont venus du fait que très rapidement, tous les pays ont demandé ces produits, donc il y a eu un excès de demande par rapport à l'offre, et donc ça a été difficile de répondre à cette demande supplémentaire. Mais c'est sûrement encore plus difficile de le faire dans un cadre où finalement on a très peu d'entreprises qui vont pouvoir potentiellement répondre à cet excès de demande, et ça, pour le coup, c'est une conséquence de la concentration de l'activité dans les chaînes de valeur et plus généralement sur les marchés internationaux, qui est elle-même une conséquence de la spécialisation et des forces de la mondialisation.
Mais ce qui n'est peut-être pas évident à comprendre, c'est la concomitance de deux phénomènes, à la fois cette concentration dont vous parlez, et en même temps un phénomène de fragmentation du processus de production.
Voilà, donc c'est intéressant effectivement de distinguer les deux, parce que à cette concentration qui est finalement un peu inhérente à la mondialisation, s'ajoute un degré supplémentaire de spécialisation qui est ce qu'on appelle la fragmentation des processus productifs, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, une entreprise ou un pays va pas se spécialiser dans la production d'un bien particulier, mais très souvent dans la production d'une étape de production qui entre dans la composition d'un bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fragmentation. C'est le fait qu'aujourd'hui, quand on va produire un smartphone ou un ordinateur, en fait, on va observer la constitution d'un réseau d'entreprises qui chacune vont prendre en charge une étape de la production. Et ces entreprises, très souvent, vont être localisées dans des pays différents. Donc, c'est pas seulement que la production du smartphone ou des ordinateurs est concentrée, c'est que cette production, elle est concentrée dans une chaîne de valeur qui implique très peu d'entreprises qui sont par définition interdépendantes les unes des autres, puisque l'activité à un point de la chaîne de production dépend finalement de l'activité dans tout le reste de la chaîne de production. Ce mode de production, ces chaînes de valeur internationales, sont des processus de production qui, par nature, sont assez fragiles, parce que, encore une fois, pour que ça marche bien, pour que la production soit efficace dans ces chaînes de valeur, il faut que toutes les entreprises qui font partie du processus productif, en même temps, produisent à pleine capacité. Si on a un problème à un point de la chaîne, parce que, par exemple, il y a une quarantaine dans un pays particulier, ça va avoir des répercussions sur toute la chaîne de production. Et donc ça, c'est ce que, en tout cas, moi, j'appelle un problème de résilience des chaînes de valeur, donc une fragilité qui est vraiment inhérente à cette structure productive.
Pour remédier à cette dépendance, justement, Isabelle Méjean, est-ce qu'il ne faut pas relocaliser certaines productions? À cela, vous répondez plutôt « attention, ce n'est pas forcément la solution ».
Je réponds surtout que c'est un peu dans le détail que peut se juger ce genre de politique, hein, c'est-à-dire que relocaliser, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que d'abord, on décrète pas, on choisit pas de relocaliser. Ce qu'on fait concrètement, hein, c'est qu'on utilise de l'argent public pour influencer la localisation des entreprises sur le territoire national. Et donc ça, éventuellement, ça peut avoir un intérêt, notamment, encore une fois, quand on identifie des fragilités et des niveaux de concentration très importants. Si on se rend compte, par exemple, que sur une molécule particulière, on est entièrement dépendant d'une entreprise, qu'elle soit située en Chine ou aux États-Unis, ça peut avoir un intérêt du point de vue de la diversification des risques de subventionner une seconde entreprise qui va pouvoir finalement produire le même bien et réduire notre dépendance à un seul acteur. Donc le problème de fond, en tout cas qui a été beaucoup discuté à l'occasion de la crise du coronavirus, c'est un problème de concentration de l'activité. C'est pas, à mon avis, un problème de localisation de l'activité. C'est un peu différent.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des cas où la relocalisation se justifie, peut-être dans le cadre de certains secteurs, par exemple l'automobile au niveau européen, plutôt que le textile ?
Encore une fois, ça dépend quel est le travers de la mondialisation qu'on veut traiter. Donc si on reste sur cette question de résilience au choc, de fragilité des chaînes de valeur, l'automobile, finalement, c'est pas un très bon exemple. Enfin, c'est un exemple qui va plutôt dans l'autre sens parce que c'est une structure productive qui est assez fortement européenne. On produit beaucoup, principalement en Europe de l'Ouest. Donc finalement, dans la structure des chaînes de valeur du secteur automobile, la contribution des composants qui peuvent venir d'Asie ou d'autres endroits est très faible. Donc c'est typiquement une chaîne de valeur qui, si elle est trop concentrée, elle serait trop concentrée en Europe finalement. Mmh.
Hein, parce elle est déjà localisée en quelque sorte.
Elle est déjà très fortement localisée en Europe. Donc on résout pas un problème de dépendance grâce à de la relocalisation de l'entreprise, de l'industrie automobile en France. Par ailleurs, par contre, on peut éventuellement traiter un autre problème de la mondialisation qui est l'impact sur le marché du travail. On peut vouloir générer de l'activité en France parce que on a un problème majeur en France qui est celui du chômage. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est important de le dire, de dire quel est l'objectif, quel est le problème qu'on veut traiter et quel est le médicament qu'on utilise pour traiter ce problème. Parce que le médicament relocalisation ne peut pas justifier le traitement de plein de maladies différentes. Souvent en économie, on dit c'est bien de traiter un problème avec un instrument. Et donc, je pense que c'est aussi très important quand on parle de dépenser de l'argent public, finalement, de bien préciser quel est le problème qu'on est en train de traiter, parce que ça permet aussi de mieux cibler. Est-ce que l'automobile, ça va être un bon secteur? Ben oui, si ça crée beaucoup d'emplois. Le textile, c'est vrai que c'est un secteur où si on produisait en France, il y a beaucoup de chances qu'on produise de manière très automatisée. Et donc, la création d'emplois qui est liée à une relocalisation du textile serait assez faible. Donc voilà, je pense que c'est important parce que à la fin, relocaliser, ça veut dire utiliser de la politique industrielle de manière ciblée sur certains secteurs. Et le ciblage est très différent selon le type de problème qu'on essaye de résoudre.
On peut décider en effet de relocaliser pour créer de l'emploi, comme vous le disiez, mais aussi pour diminuer l'empreinte carbone d'une marchandise.
Tout à fait. Il y a un autre problème de la mondialisation, c'est sa contribution au réchauffement climatique. Et de la même manière, on peut vouloir traiter ce problème-là grâce à des politiques de relocalisation. Ici aussi, j'avoue que je suis un peu sceptique. Je pense que c'est probablement sur ce problème-là que je suis le plus sceptique. Pas parce que je pense que c'est pas un problème important. Au contraire, je pense que c'est le défi majeur qu'on doit vraiment, sur lequel on doit se concentrer. Et s'il y a de l'argent public à dépenser, je pense que c'est vraiment sur les questions de réchauffement climatique. La raison pour laquelle je suis un peu sceptique, c'est que c'est très difficile, à mon avis. En tout cas, moi, j'ai aucune idée de quel secteur on voudrait cibler particulièrement pour réduire l'impact du commerce international sur le réchauffement climatique. L'idée un peu évidente qu'on a et qui est vraie, c'est que la raison pour laquelle le commerce international c'est mauvais pour l'environnement, c'est parce qu'on transporte les biens et donc le transport génère des émissions de gaz à effet de serre.
Mais le transport maritime, assez peu finalement, c'est plutôt le transport aérien.
Le problème, c'est que tous les transports de biens ne génèrent pas autant de gaz à effet de serre. Et par ailleurs, parfois, on économise du carbone quand on produit à un endroit plutôt qu'à un autre. Donc, c'est pas produire localement, ça ne veut pas toujours dire produire avec une certaine sobriété environnementale. L'exemple typique, hein, c'est toujours un peu les produits agricoles, parce que dans le secteur agricole, la productivité dépend beaucoup du climat. Bon, ben, si on relocalise une production agricole qui n'est pas adaptée au climat de la France, en France, par définition, on va créer beaucoup plus de gaz à effet de serre parce que la méthode de production va elle-même être très intensive en CO2. Et puis, il y a une deuxième chose qui est quand même très importante, c'est que typiquement, ce qu'on voit dans les données, ce qu'on importe beaucoup en dehors de l'Europe, c'est tout ce qui est produit manufacturé un peu basique, donc tout ce qui est un peu métallurgie ou ce genre de choses. Et ça, il se trouve que c'est des productions qui sont assez polluantes. Donc, de fait, on importe pas mal de pollution parce que on achète à l'étranger des biens qui sont assez polluants, qui génèrent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, si on veut effectivement relocaliser ces productions-là, on va relocaliser aussi de la pollution, ce qui, du point de vue agrégé, peut tout à fait être efficace, hein, puisque de nouveau, on va économiser sur le transport, mais ça veut dire que localement, on va polluer plus.
Isabelle Méjean, des voix se sont élevées contre la politique européenne de la concurrence qui empêcherait l'émergence de géants européens. Pour vous, au contraire, il faut lutter contre la formation de monopoles ?
Moi, je pense que c'est un risque important. Alors, il se trouve que bon, il y a beaucoup de débats à ce sujet entre économistes. Hein. C'est vraiment un sujet sur lequel je pense pas qu'on a atteint un consensus. Mais le consensus actuel, disons, c'est que ces problèmes de concurrence sont très importants aux États-Unis. Donc, on a vu aux États-Unis, comme dans d'autres pays, l'émergence d'entreprises superstars, donc de très grande taille. Et les bénéfices attendus pour les consommateurs sont pas là parce que ce qu'on voit, c'est que ces entreprises semblent utiliser un peu trop leur pouvoir de monopole. En termes relatifs, il semble qu'en Europe, la situation soit un peu meilleure, notamment parce que la politique de la concurrence était quelque chose qui est très important dans les socles de la construction européenne. Donc pour l'instant, il semble qu'on soit un peu préservé de ces problèmes de monopole par rapport aux États-Unis. Mais c'est pas du tout évident qu'on va le rester, et parce qu'on est aussi dans des périodes où naturellement, on a des consolidations, où il y a des très très grosses entreprises qui se forment. La mondialisation contribue évidemment à ça, hein, on l'a dit au début, la mondialisation bénéficie beaucoup aux très grosses entreprises qui sont celles qui arrivent à exporter de manière massive, à optimiser leur chaîne de valeur, etc. Donc les gains de la mondialisation vont avoir tendance à renforcer la position économique des entreprises qui sont déjà les plus grosses. Mais ça peut aussi se retourner un peu contre nous, au sens où à un moment donné, une entreprise qui est très très grosse, ben elle arrive dans des situations où potentiellement elle peut exercer un pouvoir de monopole qui est important, ce qui veut dire concrètement mettre en place des niveaux de prix qui sont peu concurrentiels, des taux de marge élevés et donc des prix pour le consommateur final qui sont importants.
Merci beaucoup Isabelle Méjean d'avoir partagé avec nous vos travaux et vos réflexions. À noter que vous avez collaboré à l'ouvrage « Agir face au dérèglement du monde » par 26 économistes français, donc du Cercle des économistes, publié chez Odile Jacob cette semaine. Un grand merci. Touch fire, just to taste the truth. So you're gonna die, so are you. We chase the light, cause we need the moon. This is our science, we got nothing to prove.
C'était Entendez-vous l'écho, des émissions préparées cette année avec talent par une équipe de choc, Marguerite Caton, Aliette Ovin, Xavier Martinet, Anne Depelchin, Philippe Audouin et Paloma Soria Brown. Merci également à Bertille Bourdon, Isotte Sicard et Léa Sabourin, venus en renfort en cette fin d'année, et à nos réalisateurs du confinement, Jean-Christophe Francis, Alexandra Candilonguet et Véronique Villa. On se retrouve le 24 août pour une nouvelle saison d'Entendez-vous l'écho. Bel été à tous et à bientôt.
I saw you touch her eyelids, and I can see you want so plainly to kiss her lips. I got a friend who walks the strip with a gun on his hip. His reason is this: if people caught a glimpse, they won't be talking shit. And he can rest his heavy fist. He got hands to take a teeth. He'd only call us to coax him from lips. Do you?